Bienvenue à tous, le journal de Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une de l'actualité, des vendeurs de bière qui se frottent les mains. France, Belgique, c'est donc le jour J, un derby de folie. La Belgique, meilleure attaque du mondial face à la force de frappe de la France, favori des bookmakers. Une affiche qui fait saliver. Le président Macron lui-même s'apprête à faire le voyage à Saint-Pétersbourg, tout comme votre invité. Frédéric, à 8h20, un écrivain dingue de foot.
Oui, Olivier Guèze, journaliste spécialisé, fan de football. Également Vincent Duluc à ses côtés, journaliste à l'équipe et lui passionné d'écriture. France-Belgique ce soir, qui est le favori? Deux équipes à l'image de leur pays. Pourquoi cette domination européenne sur le football mondial? Les relations entre football et politique? Le football comme soft power pour Vladimir Poutine? On attend vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur France Inter.fr.
Au menu également, information de ce matin, la veuve du dissident chinois Liu Xiaobo, en résidence surveillée depuis un an, vient de quitter Pékin pour Berlin. Nous serons en ligne avec notre correspondante en Chine. Une longue bataille politique qui s'ouvre aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Début des discussions autour de la réforme de la Constitution. Le gouvernement veut moins de parlementaires, mais des parlementaires avec plus de moyens et de pouvoir. Et puis un conseil pour cet été, faites l'amour, c'est bon pour le cœur. Rendez-vous coquin en fin de journal.
France Inter.
On ne va pas se mentir, même si on aime bien nos voisins, un jour comme aujourd'hui, jour de derby, difficile de rester neutre au-dessus de la mêlée. Alors, à 12h de la demi-finale entre la France et la Belgique sur France Inter, c'est plutôt rare. Pour commencer ce journal, la minute franchouillard.
Moi, je vois une victoire juste de la France. La Belgique, c'est costaud devant, par contre derrière, il y a quelques lacunes. Et ils ont l'impression d'avoir découvert le football, ils connaissent tout sur le football, ils ont la science infuse. Donc le football, c'est pas comme ça. Le football, ça s'invente pas comme ça du jour au lendemain. Je vois pas les Belges passer.
Voilà, ça c'est fait. Partons maintenant de l'autre côté, en Belgique. Les Belges qui rêvent d'une finale en Coupe du Monde. Ce serait la première de leur histoire là-bas. C'est un peu la même chose qu'en France en 98. Esprit black, blanc, beurre. Fini les tensions entre Wallons et Flamands. C'est tout un pays qui est uni derrière ces diables rouges. Reportage à Bruxelles de Benjamin Mathieu.
Dans ce bar branché du centre-ville, le Monk, on sert depuis le début de la Coupe du Monde un nouveau cocktail, le Red Devil.
C'est un mix de tequila et Cointreau, et il y a de tabasco, il y a piquant.
Une boisson à l'image des Diables Rouges, l'équipe nationale belge qui emporte tout sur son passage.
On doit se taire et regarder parce qu'il joue magistralement.
Luc et Hirt, accoudés au bar, parlent en flamand, en néerlandais.
Oui, parle un peu français, mais avec un petit accent.
Mais n'allez pas leur dire qu'il y a autant d'origines différentes que de joueurs dans l'équipe nationale.
Il n'y a que des Belges dans l'équipe nationale. Bon, qu'ils sont noirs, jaunes, rouges ou bleus, qu'est-ce qu'on s'en fout?
C'est la Russie qui va gagner, hein.
Autre ambiance de l'autre côté du canal, la commune plus populaire de Molenbeek, aux multiples nationalités. Antonio habite ce quartier, stigmatisé depuis la vague d'attentats terroristes. Il est comme le sélectionneur d'origine espagnole.
Il y a des Marocains, il y a des Africains, il y a un peu de tout. C'est ce qui reflète un peu l'image, hein. C'est ça qui est bien, quoi.
Allez les diables.
Cette équipe multiculturelle, c'est forcément un plus pour le quartier.
Ça aide beaucoup.
Lamia est attablée avec son amie Layla dans un petit restaurant turc.
C'est chaud, mais on y compte et on y croit.
Mais on va l'avoir cette coupe.
Et pourquoi pas rêver et aller chercher cette première étoile tant convoitée. Bruxelles, Benjamin Mathieu pour France Inter.
Allez, derrière la bataille de drapeaux, il ne faudrait pas l'oublier, il y a un match et sans doute du beau jeu, du très beau jeu même en perspective, direction Saint-Pétersbourg où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux, Xavier Monferrand. Bonjour Xavier.
Dobry dien, bonjour Sébastien.
Ça sent le football champagne ce soir, hein.
Ah oui, vous pouvez tout déboucher pour ce match. Avec modération, bien sûr, tout est pardonné. Vous vous êtes ennuyé pendant la phase de poule. L'enchaînement Australie, Pérou et surtout Danemark a eu raison de vous. Allez, revenez, parce que là, c'est le feu d'artifice. Les grandes eaux de Versailles, c'est Copacabana. Les Bleus, tombeurs du Pérou, de l'Argentine et de l'Uruguay face aux Belges qui ont tout simplement sorti le Brésil, le grand favori du mondial. Ce match, du coup, c'est carrément une finale, la finale de la Copa América. Presque tout le continent sud-américain est tombé face à l'alliance franco-belge. Alors non, c'est pas pour fermer le jeu. Jouer avec des moufles ou la peur au ventre, ça va partir dans tous les sens. Déjà 14 buts marqués en 5 matchs pour la Belgique. Meilleure attaque du tournoi. Meilleure attaque des qualifications également avec 43 buts en 10 matchs. C'est un record. Les Bleus, de leur côté, font exploser les compteurs. 6 buts sur les 2 derniers matchs face à l'Argentine et l'Uruguay, s'il vous plaît. Les gardiens français et belges ont beau être les deux meilleurs de ce tournoi. On leur souhaite bon courage.
Et puis il y en a un côté français, un joueur, Xavier, qui espère bien justement participer au festival de buts annoncés.
Eh oui, c'est Olivier Giroud, meilleur buteur en activité de l'équipe de France avec 31 buts, mais pas le moindre pion dans cette Coupe du Monde. Ça commence à faire long et à le peser un peu, à tel point que la presse commence à comparer Olivier Giroud à un certain Stéphane Guivarch, numéro 9 des Bleus, champion du monde en 98, et pas le moindre but pendant le tournoi. Mais un destin à la Guivarch, ça n'effraie pas Olivier Giroud, bien au contraire.
C'est vrai que Guivarch avait pas marqué lors de la Coupe du Monde 98, Dugarry avait marqué qu'un but, donc si on gagne et que je marque pas, je n'aurai rien à faire. Voilà, je serai champion du monde quoi qu'il arrive, donc ce serait ma plus grande fierté. Mais si j'en ai l'opportunité, bien sûr que je vais pas me gêner pour mettre le ballon au fond des filets, toujours pour aider l'équipe.
Et il n'a vraiment pas de veine, Olivier Giroud, parce que ses collègues de l'attaque tricolore Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, eux, en sont déjà à 3 buts chacun, mais cette fois, c'est pour lui. Le gardien belge Thibaut Courtois, il le connaît bien, il joue avec lui en club, et de l'avis même d'Olivier Giroud à Chelsea face à lui, il en a pris quelques-uns.
Allez, Xavier Bonferrand, en direct de Saint-Pétersbourg avec Pierre Quintard au moyen technique, et puis pour admirer le spectacle, le président Emmanuel Macron en personne sera ce soir en Russie avec dans ses bagages Giroud et Jean-Pierre Papin, parmi les stars également qui viendront soutenir les tricolores, Omar Sy, Joy Starr ou Pamela Anderson, la petite amie d'Adil Rami.
Cette présence d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg, c'est aussi l'occasion de ne pas oublier le sort terrible d'un cinéaste ukrainien prisonnier politique en Russie.
Oui, Oleg Sentsov, opposé à l'annexion de la Crimée, condamné pour terrorisme à une peine de 20 ans et en grève de la faim depuis 8 semaines, la Société des réalisateurs de films lance aujourd'hui dans Libération une pétition pour venir en aide à ce réalisateur dont les jours sont comptés. Corinne Pellissier.
À tous ceux qui aiment le cinéma, le foot et la démocratie.
Je m'appelle Jacques Audiard, je parle au nom de la Société des réalisateurs de films français.
Une vidéo de Jacques Audiard face caméra pour attirer l'attention sur le cas désespéré d'Oleg Sentsov, très affaibli depuis qu'il a cessé de s'alimenter il y a 8 semaines. Un dernier combat depuis le fond de sa cellule pour s'ériger contre la politique expansionniste de Vladimir Poutine en Crimée.
Si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien, Oleg Sentsov va mourir, très certainement. Pas durant la Coupe du Monde, ça ferait mauvais effet. Mais après, en douce, clandestinement. Nous voulons croire en une dernière et grande victoire, sans doute plus importante qu'un match de foot.
Car après 4 années d'emprisonnement et de travail forcé, le cinéaste ukrainien n'espérait plus trouver meilleure tribune que la Coupe du Monde de football, deuxième événement sportif le plus suivi au monde après les JO, avec ses 3 milliards de téléspectateurs.
C'est juste pas possible de faire ce cadeau à Poutine.
Christophe Rugia co-préside avec Bertrand Bonello la Société des réalisateurs de films, très mobilisée aux côtés du cinéaste.
On peut pas juste laisser Emmanuel Macron aller regarder des demi-finales, y compris si c'est l'équipe de France. Et je pense qu'il est prêt à aller dans ce combat jusqu'à la mort, parce que justement, c'est pas un combat pour lui.
Oleg Sentsov n'a plus la force aujourd'hui d'espérer pour sa libération, mais pour celle des autres prisonniers politiques en Russie, tous arrêtés après avoir participé en 2013 aux manifestations pré-européennes de la place Maïdan.
Corinne Pellissier, 11 000 personnes ont déjà signé cette pétition parmi les réalisateurs les plus en vue, Jacques Audiard, donc Bertrand Bonello, les frères Ardennes, mais aussi à l'étranger Georges Clooney ou le réalisateur Alfonso Cuarón. Autre dissident politique à la une de l'actualité ces derniers mois, Liu Xiaobo, dissident chinois mort l'an dernier d'un cancer en prison. Sa veuve n'était plus libre de ses mouvements depuis sa mort en juillet dernier. Bonjour Dominique André.
Bonjour Sébastien.
Notre correspondante en direct de Pékin. On a appris ce matin, Dominique, que sa veuve donc avait quitté la Chine et qu'elle était à Berlin.
Oui, les associations de droits de l'homme ici ainsi que les amis de Lucia affirment que la veuve du prix Nobel de la paix chinois est en ce moment à bord d'un avion en direction de Berlin qui aurait décollé de Pékin à 6h ce matin, heure française. L'information est confirmée par le frère de Lucia. Ce dénouement était très attendu par l'Europe et notamment l'Allemagne, impliquée dans ce dossier. Depuis un an, Berlin demande au régime de Pékin de faire un geste pour libérer l'épouse de Liu Xiaobo. Âgée de 57 ans, Lucia a vécu depuis le décès du prix Nobel de la paix chinois dans son appartement sans être libre de ses mouvements. Alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, elle souffre d'une dépression grave et se disait prête à mourir il y a encore quelques semaines. Lucia est donc libérée quelques jours avant le premier anniversaire de la mort de Liu Xiaobo, qui est le porte-drapeau de la dissidence chinoise. L'Allemagne va donc l'accueillir, alors que va s'ouvrir à Pékin la semaine prochaine un sommet entre la Chine et l'Union européenne. Cette libération montre aussi que la Chine, dont la relation s'est tendue avec les États-Unis, cherche à se rapprocher de l'Europe.
Dominique André, merci, en direct de Pékin. En bref, encore à l'étranger, comme prévu, la Cour suprême américaine bascule dans le camp conservateur. 5 conservateurs contre 4 juges progressistes. Donald Trump a nommé cette nuit le 9e juge de la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Il s'appelle Brett Kavanaugh, 53 ans, ancien conseiller de George Bush. Il s'est prononcé cette année contre l'autorisation donnée à une adolescente entrée clandestinement aux États-Unis de se faire avorter. Il ne reste plus que 4 enfants bloqués en Thaïlande et leur entraîneur. Ils devraient sortir aujourd'hui selon les sauveteurs. Les 8 autres ont été sortis hier sains et saufs. Ils sont en bonne santé mentale.
France Inter, 8h10. En France, après la mort de 3 enfants dans un lac de Saône-et-Loire, comment sensibiliser les vacanciers au risque de noyade?
Entreprise difficile car bien souvent les panneaux baignades interdites ne suffisent pas, ni l'absence de maîtres nageurs. Exemple dans la Creuse, à Sardan, sur la plage de Mamanja, l'absence de surveillants de baignade n'empêche pas les gens de se baigner. Fabien Arnet.
Elle est bien, elle n'est pas trop chaude, elle est un petit peu froide au fond, mais sinon la surface c'est bien.
Mamanja est un lieu charmant avec son étang de près de 10 hectares et son panneau.
Baignade interdite.
Il y a des crabes, il y a des requins, des ours.
Non, simplement cette année, la communauté de communes Creuse Sud-Ouest ne finance plus de surveillants de baignade à Mamanja.
Oui, c'est ça, c'est pour ça. Avant il y avait un garde-chiourme là, et puis il sifflait quand on les passait, parce qu'il mettait des bouées là. Et moi quand je lâche, je vais à l'autre bout. Et quand on dépassait les machins, il sifflait le gars. Alors j'allais l'engueuler après.
Ça fait bien 5-6 ans qu'on vient se baigner l'été.
Ces deux adolescents connaissent bien les lieux.
Il est grand mais pas très profond. Il est profond vers là et au milieu 1m50 d'eau, c'est tout.
Et au plongeoir, c'est le plus profond.
On y a été 2-3 fois, mais c'est tout.
Je suis venue ici avec mon fils, il était petit. Il n'y avait pas encore toute cette mise en place de surveillance de baignade et tout, parce que ça fait longtemps que j'habite dans le coin. Et je surveillais mon enfant. C'est de l'eau, c'est dangereux.
Moi, je crains pas la noyade.
On n'y pense pas. Non.
J'attends après avoir mangé pour y aller. Et après, je sais que je sais nager, puis j'évite d'aller trop loin aussi.
Et la peur du gendarme?
Oh non, mais moi, les flics, ils peuvent venir, je m'en fous. Hein. Ils vont pas être là tout le temps. Ils peuvent pas nous empêcher de nous baigner, quand même. Hein?
Leur reportage en immersion de Fabien Arnet. Attention si vous prenez le train ce matin au départ ou à l'arrivée de la gare du Nord. Trafic fortement perturbé à cause d'une panne électrique. Trafic perturbé sur les RER B et D et la ligne H du Transilien. Sanofi stoppe temporairement sa production de médicaments sur son site de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Après avoir nié hier les accusations de France Nature Environnement qui dénonçait les rejets toxiques de cette usine chimique, le groupe pharmaceutique a fini par diligenter une enquête interne. Malgré la demi-finale de la France, ce soir, pas question de ralentir les réformes. L'Assemblée va se pencher à partir d'aujourd'hui sur un texte qui promet des débats passionnés, la réforme du Parlement et plus largement de la Constitution, avec notamment un engagement du président Macron, réduire le nombre de parlementaires, mesure très populaire dans les sondages, mais beaucoup moins auprès des politiques. L'idée, c'est d'avoir moins d'élus, mais des parlementaires plus puissants. Cyril Gradiani.
Moins de parlementaires, mais plus de collaborateurs et plus de moyens, c'est ce qu'espère la députée En Marche, Amélie de Montchalin.
Des parlementaires plus experts, avec plus de moyens, plus d'expertise, plus d'accès aux données, c'est des parlementaires beaucoup plus forts. Et c'est pas une question de nombre, c'est vraiment une question de comment on travaille et surtout quels sont les outils dont on dispose pour bien faire notre travail.
Le premier questeur de l'Assemblée, Florian Bachelier, lui milite ouvertement pour cette réduction et prend l'exemple américain.
Si vous regardez le nombre de congressmen aux États-Unis, vous voyez qu'aujourd'hui ils sont moitié moins que le nombre de parlementaires français, députés et sénateurs. Et je n'ai pas l'impression que le Congrès américain ne soit pas plus puissant que le Parlement français.
Si les Français plébiscitent cette réduction du nombre de parlementaires, à droite, ça fait grincer des dents pour Bruno Retailleau, le sénateur Les Républicains. Le but espéré n'est pas le bon.
C'est de la foutaise, bien sûr que non. Il faut le prendre comme un tribut payé, si j'ose dire, aux Français pour leur dire que les parlementaires soient aussi capables de faire un certain nombre d'efforts. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que le président de la République fasse des efforts. Pourquoi est-ce qu'il ne propose pas de passer de 30 et quelques ministres à 20 simplement?
Cette question ne sera débattue qu'à l'automne, mais dès aujourd'hui, la droite compte bien rappeler aux marcheurs son opposition pour empoisonner tous les débats sur la réforme constitutionnelle.
Cyril Gradiani, les débats doivent durer 2 semaines avant la pause estivale. Ils reprendront ensuite à l'automne.
Faites l'amour, c'est bon pour le cœur.
Oui, c'est un conseil d'été de la Fédération française de cardiologie. Faites l'amour pendant les vacances, et pas seulement d'ailleurs. C'est en effet très bon pour notre petit cœur. Attention toutefois aux pannes sexuelles aussi, qui peuvent être le signe avant-coureur d'une fragilité cardiaque. Véronique Julia.
Parce qu'il libère une multitude d'hormones, sérotonine, dopamine et endorphine, l'orgasme est un anti-stress et antidéprime puissant. Parce qu'il muscle le myocarde, il libère les toxines et maintient en forme. À quelle fréquence? Autant qu'on veut, c'est le conseil du professeur Claire Mounier-Veillé. Elle préside la Fédération française de cardiologie.
L'activité sexuelle, c'est une activité physique comme une autre. Ça correspond à une montée de 2 étages un peu rapide. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui doit faire peur. Et combien de fois? Bon, on dit qu'il faut faire 20 minutes d'activité physique par jour pour être en bonne santé. Vous voyez, si les gens ont envie, ils peuvent faire ça plusieurs fois par jour s'ils veulent.
Après un accident cardiaque, beaucoup redoutent de s'y remettre. Et les cardiologues le disent, ça brise des couples. La reprise d'une activité sexuelle ne représente pourtant pas de problème particulier. On peut même recommencer une semaine après l'implantation d'un pacemaker ou d'un défibrillateur.
Quand on parle de mourir pendant l'acte sexuel, c'est extrêmement rare. Il y avait une grosse étude où sur 1000 arrêts cardiaques chez des hommes, eh bien, il y avait seulement 2 hommes qui étaient morts pendant l'acte sexuel. Et chez les femmes, c'est encore plus rare. Sur 10 000 femmes qui auront fait un arrêt cardiaque, il n'y en a que 2, c'était en rapport avec l'acte sexuel.
Chez l'homme, la panne sexuelle, en revanche, n'est pas anodine. Elle est souvent le marqueur silencieux d'un problème cardiovasculaire. Une perte d'érection doit alerter. Elle précède couramment de 3 à 5 ans un accident cardiaque.
Véronique Julia, voilà, ça commençait bien, ça finit plus mal. Et si vous voulez célébrer quand même la victoire ce soir, vous n'êtes pas obligé de boire. On peut aussi donc se faire des câlins, c'est conseillé.
Vous nous vendez du rêve. Merci Sébastien Le Génie.